Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. C'est un étrange revirement que celui du gouvernement malien. En fin de semaine dernière, les autorités de transition ont démenti avoir confié à qui que ce soit le soin d'ouvrir un dialogue avec certains groupes terroristes en vue de négocier la paix. L'information avait pourtant été confirmée à RFI en début de semaine par le ministre des Affaires religieuses et le Haut Conseil islamique du Mali. Pourquoi ce rétropédalage des autorités maliennes? Que signifie cette cacophonie à Bamako? Existe-t-il des dissensions au sein du pouvoir? Pourquoi cette réticence à officialiser des contacts qui existent de manière informelle depuis des années entre le pouvoir et certains djihadistes comme le chef du Jnim, le Touareg Iyad Agrali, et le prédicateur radical de la Katiba Massina, Madou Koufa? Le gouvernement a-t-il reculé de peur des réactions de ses partenaires étrangers, hostiles au dialogue avec les terroristes, notamment la France, avec laquelle les relations sont de plus en plus tendues? Et si un dialogue est engagé, qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas? On ouvre tout de suite le débat. Youba, bonjour.
Bonjour madame.
Vous nous appelez de Bamako. Youba, comment oui. avez-vous réagi à ce rétropédalage de votre gouvernement?
Je suis lucide là-dessus parce que je me dis simplement que c'est un gouvernement, notre gouvernement n'a pas le choix. Il est obligé d'adopter une politique de l'autruche, mais seulement il l'accompagne d'une langue de varan, c'est-à-dire une langue fourchue, bifide et courbée. C'est-à-dire tout simplement que nous sommes d'accord, nous ici, nous le savons, et c'est là depuis longtemps, que nous sommes débordés de toutes parts et nous voulons chercher toutes les solutions qui puissent faire qu'on ait moins de pertes en vies humaines. Et le DNI, c'est-à-dire le dialogue national inclusif, avait déjà recommandé un dialogue avec ces gens-là, avec les terroristes. Enfin, ce gouvernement, il vient, il n'a pas le choix. La situation s'est aggravée, tout le monde le sait. Nos villageois ne peuvent même plus aller dans leurs champs. Autrefois, c'était des attaques sporadiques. Maintenant, ils occupent les villages. Donc, nous n'avons pas le choix. Nous voulons discuter. Cela dit, la discussion dans ce genre de situation se fait toujours de façon en incognito, de façon discrète. Ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'il se soit senti obligé de le rendre public.
Le JNIM avait demandé qu'un éventuel dialogue soit rendu public. Il ne voulait pas de mission secrète, informelle. Donc peut-être que le gouvernement a, dans un premier temps, répondu à une ouverture du JNIM, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais même cela, je ne le comprends pas. Parce que le JNIM, déjà, nous savons que ce sont des terroristes. Ils ne nous arrangent pas. Je voudrais dire simplement que s'il faut discuter avec eux, sur quel point on va discuter de la souveraineté de notre État, ce n'est pas discutable. De la forme laïque de l'État, ce n'est pas discutable. Donc mieux vaut discuter, mais en sourdine, dans la discrétion. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que, voilà, maintenant on se trouve dans une situation où un jour on est obligé de dire oui, on discute pour faire plaisir à certains, et un autre on sort pour dire non, on ne discute plus pour faire plaisir à d'autres. C'est la preuve tout simplement qu'on n'est pas dirigé. Moi je trouve que c'est très approximatif. Et il faudrait vraiment revoir la communication sur ce point-là. Moi, je suis d'accord qu'on puisse discuter si jamais ça peut épargner des vies, comme je le dis, mais le faire de façon discrète et rester dans le giron des nations pour ne pas être mis au banc des nations. C'est aussi simple que ça. On en a marre. Nous, on veut simplement que les tueries s'arrêtent, que notre peuple retrouve un peu de sérénité. C'est tout. On n'a pas besoin de ce populisme à tout va. Une fois qu'on a fini de parler de ça, on va te taxer de tous les noms. Mais moi, j'assume tous les noms d'oiseaux, je les supporte. Mais ça suffit. S'il faut discuter, il faut discuter discrètement et on n'a pas besoin d'en rajouter. Oui, un jour, oui, on va aller discuter avec eux. Demain, non, on ne discute pas. On ne comprend rien. En tout cas, moi, franchement, je ne comprends absolument rien.
Merci beaucoup, Youba. Merci beaucoup, Youba, de nous avoir donné votre point de vue. On va retourner au standard où nous attend Abba. Bonjour, Abba.
Bonjour, madame.
Vous nous appelez, vous aussi, de Bamako. Avez-vous été surpris par ce revirement du gouvernement malien sur cette question du dialogue avec les groupes djihadistes?
Est-ce qu'il s'agit d'un revirement? Je ne pense pas. Moi, je crois que peut-être le ministre est vite allé en besogne. Sinon, les autorités, pratiquement toutes les autorités maliennes ont toujours l'habitude de négocier, mais dans la plus grande discrétion. Alors cette fois-ci, nous constatons qu'il y a eu discordance. Bon, ça c'est un peu quand même dérangeant. Sinon, les négociations, c'est inévitable. On a vu quelle formule qu'on aura à négocier pour arriver au pacte national, ce qui a permis aux rebelles d'intégrer l'armée et les services de l'État. On a vu également qu'avec ceux qui ont commis les plus graves exactions au niveau d'Aguelhok, également ont intégré l'armée après des négociations. On a vu, après négociation également, que la rébellion de MNLA a permis à ses responsables d'intégrer le gouvernement et les services de l'État. Donc vraiment, les négociations sont inévitables, à mon avis.
Voilà, le dialogue avec les groupes terroristes est désormais, pour vous, la seule option pour ramener la paix et la sécurité au Mali?
Ah. Absolument, madame. Mais il y a trop de sang coulé. Tous les jours, c'est le sang des Maliens qui coule. Hein? Ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, les greniers sont brûlés, les récoltes de Paris. Les paysans ne peuvent plus aller pour faire ces récoltes-là. Donc vraiment, on n'a pas le choix. Malgré tout ce qu'il y a comme force étrangère ici, plus les forces maliennes, le problème, disons, la situation, la crise s'est déplacé du nord pour venir au centre et aujourd'hui c'est au sud. Vraiment, on n'a plus le choix, il faut négocier.
Abba, l'an dernier, Iyad Agrali, le chef du JNIM, avait dit être disposé au dialogue, mais il avait posé une condition, le départ préalable des soldats français. Est-ce que vous imaginez les autorités maliennes accepter une telle condition?
Les Français même ont dit qu'ils vont partir.
Pas complètement. Alors, la moitié seulement des militaires français va partir. Donc 2500 hommes à peu près vont rester au Mali sous une forme différente, sous forme de force spéciale. Donc ce n'est pas, a priori, un abandon.
Bon, de toute façon, quelle qu'en soit, la coopération avec la France est une chose, est nécessaire. Le Mali ne peut pas se passer de la France. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, ce que pense Iyad, mon problème, c'est par rapport à la charia. S'il doit vraiment insister sur le problème de la charia, je crois que c'est là où il y aura des difficultés. Et cela peut trouver sa solution également dans le cadre de la décentralisation poussée. Si l'État accepte de vraiment consentir des efforts pour permettre de transférer les compétences au niveau de ces, disons des communes, je pense que ça peut trouver une solution à ce niveau.
Donc vous voulez dire l'enjeu de ces négociations, c'est peut-être de renforcer des pouvoirs locaux plutôt que de répondre à des aspirations correspondant au djihad global, entre guillemets?
Tout à fait. Mais je crois que c'est là où on peut vraiment trouver un terrain d'entente. Sinon, les négociations sont inévitables. On a vu le cas de Mahmoud Diko, la dernière fois en 2017.
Il a mené lui aussi des missions de bons offices dans le nord du pays, dans plusieurs villes du nord.
Tout à fait. On a vu le cas également de l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi qui a négocié également avec les rebelles pour la libération du Somaliland. Récemment, la religieuse colombienne également a été libérée suite à des négociations. Donc les Maliens vraiment ont cette tradition de négocier, mais dans la grande discrétion.
Merci beaucoup, Abba, de nous avoir appelé. La ligne se détériore quelque peu. Bonne journée à Bamako. On reste à Bamako, d'où nous appelle Mamadou. Bonjour.
Bonjour, RFI, et bonjour à tous vos auditeurs.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce rétropédalage du gouvernement malien?
Ce rétropédalage, s'il faut l'appeler ainsi, est le signe que voilà, le gouvernement est allé vite en besogne. En fait, ils n'ont pas pris le temps de préparer cette affaire qui, il faut le rappeler, en fait, le dialogue n'a jamais cessé entre le Mali et la mouvance terroriste, on va dire, locale. La frange locale d'Al-Qaïda, en l'occurrence, depuis 2012, il y a en fait des canaux de négociation pour des libérations d'otages généralement et des prisonniers de part et d'autre. Maintenant, ceci dit, le dialogue avec les djihadistes doit faire partie d'une solution globale. En fait, ce n'est pas un choix unique qu'il faut mener. En fait, il faut aller sur les deux pieds, aussi bien la solution militaire, qui à elle seule ne suffit pas, ainsi que la négociation. Mais la négociation avec les djihadistes, il faut la définir d'abord, si vous voyez.
Voilà, la question le maintenant, précurseur. C'est qu'est-ce qu'il faut négocier avec les groupes djihadistes ?
Est-ce que... Attention, avant d'arriver à qu'est-ce qu'il faut négocier, avec qui est-ce qu'il faut négocier d'abord, c'est ça la première question. Parce que aujourd'hui, le précurseur de cette négociation, l'imam Mahmoud Diko, a clairement dit il y a un avantage certain que ces groupes armés ont pris sur l'État malien en termes d'adhésion des populations à leur cause dans certaines zones, notamment les légitimités traditionnelles des imams, des chefs de village. Donc, c'est la proposition, c'est de pouvoir discuter avec ces légitimités traditionnelles qui ont plus ou moins adhéré à cette cause pour pouvoir détacher. Parce que la force d'un groupe djihadiste dans une guerre asymétrique, c'est cette adhésion de la population locale, le fait de bénéficier de ce soutien local. En fait, c'est ça qu'il faut casser pour isoler vraiment cette minorité qui a entraîné une partie de nos populations dans cette affaire. En fait, c'est de cette façon qu'il faut définir la chose. Et une fois qu'on aura identifié...
Vous voulez dire, Mamadou, que en fait, ça ne sert à rien de négocier avec les deux chefs principaux des groupes liés à Al-Qaïda, à savoir Iyad Agrali et Amadou Koufa. Il faut discuter localement.
Ah oui, il faut discuter localement, parce qu'il y a des Koufa, c'est des cas spécifiques, c'est des gens qui sont sur la liste noire des terroristes arrêtés par les Occidentaux. Ça va être compliqué dans que l'État malien engage officiellement une discussion avec ces personnalités. Par contre, à l'échelle locale, parce que ces groupuscules sont vraiment organisés de façon locale, même s'il y a cette tutelle qui s'exerce, ils sont organisés de façon locale, de sorte que voilà, on peut détacher plus ou moins cet ancrage local vraiment du djihadisme. C'est ce qui va nous permettre vraiment d'entrevoir la porte de sortie. Mais négocier directement avec les chefs djihadistes, à mon humble avis, ça va être extrêmement compliqué dans le contexte géopolitique qu'est le nôtre actuellement.
Mamadou, la semaine dernière, le ministère des Affaires religieuses avait précisé que sa mission de bons offices en direction des groupes armés radicaux était assortie de lignes rouges, mais il n'avait pas précisé lesquelles. Selon vous, quelles sont ces lignes rouges ? Ou quelles devraient être ces lignes rouges ?
On ne part pas à une négociation en fixant tout de suite d'entrée de jeu des lignes rouges. Il est clair pour moi que si on va à des négociations, c'est pour faire des concessions. Entre nous, on définit la stratégie, on définit les objectifs, ce qu'on peut laisser, ce qu'on peut avoir. On le fait, on le garde à côté, mais si vous définissez de prime abord des lignes rouges, bon, vous ne donnez pas une chance à la négociation. Pour illustrer cela, vous voyez les djihadistes qui posent la condition du départ des troupes françaises pour négocier avec les Maliens. Vous voyez, c'est une façon de dire on veut négocier, mais on ne veut pas négocier. Et c'est, vous voyez, étant donné que l'État malien, dans les conditions actuelles, ne va jamais accepter que les forces françaises se retirent tout de suite, sinon c'est l'État qui va s'effondrer, qui va s'écrouler.
Et est-ce que le gouvernement pourrait, selon vous, saisir les assises nationales de la refondation qui auront lieu du 21 au 26 décembre pour poser sur la table la question du dialogue ?
La question du dialogue a déjà été tranchée à maintes reprises. Moi, je pense qu'on peut poser encore cette question. Ça n'a jamais fait... Au contraire, c'est une question qui fait unanimité ici, aujourd'hui. Il faut discuter avec ces gens. Mais comme je l'ai dit, avec qui discuter ? Quoi discuter,
local.
Comment discuter? Voilà, ce sont ces aspects justement qu'il faut définir avant de se lancer dans cette aventure. Sinon, la question de la nécessité du dialogue, à mon avis, ne se pose plus. On pourra le poser pendant les assises nationales, mais moi, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qui pourrait changer pour reconfirmer encore une position qui a été clairement définie.
Merci beaucoup, Mamadou. On va partir pour Gao. On nous attend Issoufou. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Issoufou, c'est intéressant parce que vous, vous habitez donc à Gao. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que Bamako. Comment vous réagissez à ce qu'ont dit les auditeurs précédents ? Pour vous, le dialogue, il doit se faire également au niveau local, pas forcément avec les grands chefs Yad Agrali ou Amadou Koufa ?
Bonjour, est-ce que vous pouvez revenir sur la question ?
Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec notamment Mamadou qu'on vient d'entendre et qui dit que le dialogue avec les groupes armés doit se faire au niveau local et pas au niveau des grands chefs que sont Yad Agrali ou Amadou Koufa ?
Bonjour encore une fois. Je pense que la connexion n'est pas, le réseau n'est pas aussi bon ici à Gao. Okay. Je voudrais juste dire que voilà, donc ça vient par intermittence.
Alors Issoufou, on va essayer de vous rappeler, hein, d'accord ? Et sans faute avant la fin de l'émission, on va retourner à Bamako. Nous attend Moussa. Bonjour Moussa.
Bonjour.
Moussa, alors comment expliquez-vous que le gouvernement ait effectué ce revirement, ce rétropédalage ? Comment expliquez-vous cette cacophonie au sommet de l'État sur cette question du dialogue avec les groupes radicaux ?
Exactement, je vois que il y a une cacophonie totale qui montre à ce sujet que le gouvernement, les membres du même gouvernement ne partagent pas les mêmes informations. Nous voyons qu'il n'y a pas plus de 24 heures que le gouvernement malien a fait un communiqué qu'il va discuter avec les groupes djihadistes, chose qui est approuvée à l'unanimité par l'écrasante majorité des Maliens.
Alors justement, pourquoi le nier ensuite, quelques jours après ?
Moi, je pense que ça, c'est un manque d'information, c'est une cacophonie totale entre les membres du gouvernement.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu, par exemple, des pressions internationales qui auraient fait reculer le gouvernement ? Ça, vous n'y croyez pas ?
Oui, moi je pense à une partie de cette thèse-là.
Ah, il y a peut-être des pressions.
Il y a des pressions qui sont là, même si ça n'a pas été dit, mais ça sent à travers les réagissements de l'ONU. La visite récente là, de l'ONU prouve à suffisant cela. Mais après, nous voyons que le gouvernement, parce que nous voyons que entre le ministère des Affaires religieuses et la primature, il y a une cacophonie totale. Le démenti qui est sorti, qui a été lu sous les antennes, et le communiqué, je vais parler du communiqué, nous avons vu que le communiqué a été clair, qu'il n'a jamais mandaté qui que ce soit pour négocier. Or, le ministère des Affaires religieuses est sorti devant les caméras du monde entier pour que l'État malien s'apprête à négocier avec les djihadistes.
Alors Moussa, qu'est-ce qui peut être négocié selon vous avec les djihadistes ? L'arrêt de la violence contre quoi ?
Moi, ce qu'on peut négocier, c'est avec les djihadistes, on peut. Tout le monde sait qu'au Mali, actuellement, il y a une mauvaise gouvernance. Le problème du Mali, c'est la mauvaise gouvernance. Il n'y a même plus la gouvernance. Donc, on peut travailler sur le volet justice et le développement social. Parce que ce sont ces volets sur lesquels les djihadistes travaillent pour pouvoir adhérer des jeunes à leur cause.
Merci beaucoup Moussa. On est un peu pris par le temps et on n'aura pas le temps de retrouver Issoufou à Gao dans une prochaine émission, j'espère. Cette émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a entourée. Jessica Taïeb, Yasmine Boulan, Elsa Olaizola, Dimitri Crière et Amandine S. Sans oublier Michael Verne à la réalisation et Alexis Levavasseur au standard. Demain, nous débattrons de la situation au Soudan où un coup d'État semble se dessiner. L'armée a arrêté la plupart des ministres et des membres civils du Conseil de souveraineté. Des soldats ont pris d'assaut le siège de la radio-télévision d'État à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, la capitale.
Banque Atlantique présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Dans 10 minutes, c'est Raphaël Constant qu'on va retrouver pour Priorité Santé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Chantal.
Comment gérer sa colère? C'est le thème que vous nous proposez aujourd'hui.
Et oui, des embouteillages sur la route, des mots blessants au travail, des crispations à la maison, les occasions de se mettre en colère sont nombreuses. Alors pourquoi certaines personnes sont plus colériques que d'autres? Comment apprendre à mieux gérer sa colère? Appelez-nous 33 1 84 22 75 75.
À tout à l'heure Raphaël, dans 10 minutes.